BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir que de vous retrouver pour ce deuxième De quoi je me mêle de l'année 2023. Merci d'être là. Vous étiez peut-être avec nous la semaine dernière depuis le CES de Las Vegas. Nous voilà de retour dans nos studios parisiens. Ravis évidemment de passer cette petite heure en votre compagnie. On va débriefer l'actu tech de ces derniers jours avec nos experts. Évidemment, l'actu est très importante. On va revenir sur les principales annonces du CES, mais aussi sur l'actualité un petit peu plus chaude avec notamment ChatGPT, des actions concrètes qu'on commence à voir sur ChatGPT. Puis on évoquera aussi l'arrivée éventuelle d'un masque AR d'Apple. Voilà le menu de quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. Voilà, un énorme club de la presse IT avec Mélinda Davansoulas qui est avec nous.
Bonjour François, bonjour Anthony.
Voilà, de retour de Las Vegas, Mélinda.
Oui.
Toujours aussi fraîche. Comment fait-elle ?
C'est faux pas si aux apparences.
Et je peux vous dire que là, il n'y a aucun filtre en plus. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, de quoi je me mets, etc. On met des filtres. Non,
ce serait bien. C'est une bonne idée. Pense aussi pour les prochaines.
Et Anthony Morel est avec nous. Salut Anthony.
Bonjour.
Tu nous as manqué, Anthony, on est ravis de te retrouver.
Bah vous m'avez tellement manqué, vous.
Ben aussi. Ouais.
J'étais tellement frustré de vous voir. C'était horrible. Non, c'était vraiment. C'est génial. Enfin, à la fois, c'était génial, je vous voyais là-bas et vous aviez l'air heureux comme pas permis. Et c'est normal parce qu'à chaque fois qu'on est au CES, c'est un bonheur pas possible.
Ah ouais, c'est clair.
Mais moi, je pouvais pas y être pour des.
Pour des raisons de logistique. Et puis, il fallait que tu tiennes la maison quand même.
Il fallait,
aussi.
Fallait que quelqu'un tienne, voilà, garde les clés de la maison
c'est
et
ça,
reste ici.
Exactement.
Et c'était moi cette année. Mais l'année prochaine, on y va tous ensemble.
Ah, ben alors là, tu sais quoi, ça sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Anthony, qui évidemment journaliste à BFM Business que vous retrouvez aussi sur RMC entre midi et deux. Anthony, évidemment, tu as suivi à distance ce CES. Comme tu es hyper connecté, tu as tout suivi, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a marqué sur ce CES ? Après, on donnera la parole à Mélinda. Et puis,
écoute,
évidemment.
Je l'ai même presque mieux suivi que d'habitude, parce que l'avantage quand tu es à distance, c'est que tu as une vision très en surplomb par rapport à quand tu es la tête dans le guidon
c'est
sur
vrai.
Ton salon. Hein, pour l'avoir fait une dizaine de fois avec vous, c'est vrai que tu es toujours. Tu croises des choses, mais tu passes à côté de plein de choses. Alors que là, bah, forcément, j'ai un petit peu tout reçu. Moi, ce qui m'a marqué, je ne sais pas, c'est la sensation, le sentiment que j'ai eu d'ici. C'est que par rapport aux éditions précédentes, il y avait peut-être un petit peu moins de gadgets et beaucoup plus d'innovation dans le dur, quoi, dans le sérieux, dans des choses qui vont avoir des applications réelles dans nos vies. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est les innovations liées à la santé. Alors, il y en a eu plein, je sais que c'était une des grandes tendances du salon. Il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. La première, c'est celle de WeThings, là, leur espèce de petit laboratoire médical qu'on va installer dans ses toilettes.
Ouais, c'est analyse d'urine.
Analyse d'urine, mais c'est dingue, enfin, le truc, quand ils pensent, parce que on pourrait se dire, oui, ok, machin, c'est un gadget. Non, en fait, c'est un dispositif médical qu'on va mettre dans la cuvette de ses toilettes et qui va analyser des échantillons d'urine et qui va être capable, en fait, de faire de la médecine préventive, de vous dire si vous ne buvez pas assez, que vous n'êtes pas assez hydraté, bon très bien, vous recevez une alerte sur votre téléphone, mais ça peut être pour les femmes les fenêtres d'ovulation pour les couples qui veulent avoir un enfant. Ça va être aussi, j'en discutais avec Eric Carrel, le fondateur de WeThings, qui est venu nous voir pendant le CES à BFM Business, et il nous disait par exemple, il y aura un suivi des maladies chroniques à terme, les toilettes qui pourront te dire, ah là, monsieur Morel, vous êtes en train de faire un calcul rénal qui va probablement se développer et qui va vous faire mal dans 15 jours, 3 semaines, donc il faut se mettre à boire de l'eau et il faut contacter votre médecin. Enfin, le potentiel est quand même dingue. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé absolument génial. Première chose. Et la deuxième innovation, alors je crois que vous l'avez testé, donc vous allez me dire si ça fonctionne vraiment, mais c'était Caducy, donc qui est un système qui permet à partir d'un simple selfie d'avoir un diagnostic médical. En gros, on fait une vidéo de soi pendant 30 secondes et on va avoir 6 métriques très précises de paramètres vitaux, la fréquence cardiaque, tension artérielle, fréquence respiratoire, niveau de stress, saturation en oxygène dans le sang. Et en fait, le truc, c'est qu'on a maintenant des niveaux, des qualités optiques de smartphone tellement dingues qu'on va pouvoir les coupler à des algorithmes qui vont être capables d'aller analyser la variation du volume sanguin à la surface de la peau, des variations très fines de la pigmentation. Et en fait, on s'approche à partir de ça des instruments de mesure traditionnels. Et sur les mesures qu'ils ont réalisées, ils ont fait un essai clinique sur 1000 personnes au CHU de Nancy. Et en fait, ils obtiennent les mêmes résultats, 95% de précision près qu'avec des instruments de mesure médicaux classiques. Ce qui est, pour le coup, une vraie révolution potentielle. Je pense, par exemple, pour les téléconsultations, où, pour le coup, le médecin pourra avoir toutes ces données-là quasiment instantanément. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même des game changers potentiels, des trucs qui sont vraiment où on sort du gadget et on est sur des choses qui vont peut-être nous changer la vie.
Et qui servent à quelque chose, tu as raison. Ce petit laboratoire d'urine, c'est révolutionnaire. Il faut aussi avoir le courage de sortir ce type d'objet, parce que c'est pas forcément hyper sexy, quoi. C'est pas un monde connecté joli, etc., etc.
Voilà, ils ont fait plus élégant chez Withings comme produit.
Voilà,
on
est dans les toilettes, mais il faut savoir que moi j'adore la philosophie en plus de Withings, qui est ces objets connectés santé qu'on oublie et qui monitorent, en fait, qui nous surveillent sans qu'on s'en rende compte. Le capteur sous le matelas, on dort tous les soirs, on se couche, et bien voilà, ça enregistre vos métriques, votre fréquence cardiaque. Si vous faites de l'apnée du sommeil et dès qu'il y a des petits soucis, paf, ça vous le signale. Ouais. Les balances, pareil, dès qu'il y a une petite anomalie, ça ne vous dit rien la plupart du temps, ça vous indique même pas votre poids, parce que c'est vrai que le poids, au quotidien, ça peut être anxiogène, j'en sais quelque chose. Non, je plaisante.
Il ne faut pas monter sur les balances au quotidien.
Non, il ne faut pas monter.
Mais... Surtout en rentrant de Vegas.
Surtout après les fêtes. Après Vegas, ça peut être pas mal, parce qu'on marche tellement toute la journée,
ouais,
que c'est peut-être le meilleur régime.
Mais tu commences ce soir.
Mais voilà.
Les burgers, là, c'est vrai que c'est une légende, quoi. Bref, et je trouve que la philosophie de Withings, elle est géniale. C'est qu'en fait, on a des objets qu'on oublie et qui monitorent notre santé sans rien nous dire, jusqu'au jour où on a un petit souci. Et tu as raison, Evertual, tu l'as testé, Mélinda. On les a reçus sur les plateaux de nos différentes émissions. Les gars sont géniaux. Et c'est fou comment, avec l'intelligence artificielle et une petite caméra, même pas très bonne, parce que c'est ça qui est
fou.
Même avec une webcam, ça marche.
Ça marche avec des webcams pas forcément bonnes. En fait, ça teste avant si votre caméra est bonne de smartphone. Voilà, si elle peut faire. Moi, je l'ai testé à plusieurs reprises. Je l'avais testé avant le CES. J'ai testé deux fois le premier jour, quand on commence bien, et le deuxième, quand ça commence à être un peu plus speed. Oui, j'ai comparé avec les métriques de ma montre, alors qui normalement sont à peu près fiables. J'ai les mêmes. C'est extrêmement cohérent entre le premier et le deuxième jour. En plus, ça vous donne votre niveau de stress. Donc, quand vous êtes en train de courir partout au CES, c'est une bonne mesure.
Mélinda, vous êtes à 200 là. Ouais. Problème.
Non, 200, mais voilà. Vous avez fait 126 484 pas aujourd'hui.
Et le rythme cardiaque est à 200 aussi.
Mais c'était vrai. J'avais bu un café juste avant et mon rythme était. J'avais mes métriques qui étaient un peu hautes. Mais alors, je suis pas très haute, mais ça se voit. On voyait la différence. Non, c'est assez dingue. En téléconsultation, c'est vrai qu'on sent un atout fou. Ce ne sera pas pour le grand public, hein. Ce sera forcément dans un suivi médical avec d'autres appareils.
C'est du B2B2C,
voilà,
comme on dit. Hein.
Exactement. Ils sont en train de discuter avec des assurances, avec l'assurance maladie, avec des mutuelles. Ils sont même en train de discuter avec des entreprises comme Stellantis pour intégrer leur algo aussi dans des véhicules. Donc on imagine sans peine dans une voiture pour vous donner... Alors, pas votre rythme cardiaque ou des choses comme ça, mais pour adapter l'habitacle, la climatisation, le confort, et éventuellement prévenir s'il y a un problème. Moi, je trouve que c'est une super innovation. C'est français en plus, on va quand même faire un petit cocorico.
Ouais.
Donc, c'est pas mal. J'avais un truc à vous dire sur Withings, quand même, je fais une petite parenthèse. Parce que Withings, donc nous, on est français aussi, on dit « ouais, c'est super ». Aux États-Unis, pendant le CES, ils ont quand même eu un prix que personne ne veut, qui est celui de la pire innovation pour la vie privée.
Ah ouais? Ouais. Ah, pour la vie privée, ah oui, je vois le truc.
Pourquoi ? Tu vois le truc venir ? Ouais. C'est américain, ceux qui ont mis, alors je ne sais plus le nom de l'association. En fait, dans un climat un petit peu compliqué aux États-Unis, ils estiment que cet élément va permettre de détecter éventuellement des avortements. Et donc, ça va très loin. Hein, et donc, dans ces cas-là, dans la période un peu tendue aux États-Unis sur l'avortement, ils disent, mais attendez, donc on peut avoir les informations sur telle ou telle personne, si elle a subi un avortement ou pas. Ah non, mais ça va très loin.
Ouais,
donc, ils ont eu quand même un prix là-dessus aux États-Unis, ouais, où ils ont été autant salués, nous on l'a vu, hein, Withings, tout le monde en parlait, que tout ce qui est le chantre de la protection personnelle et
le
des données.
Le pire dans cette histoire, c'est qu'on ne devrait même pas se poser la question de savoir on peut analyser un avortement ou pas.
T'imagines, moi, ça ne me serait jamais venu à...
C'est incroyable. Dans un contexte tel
tout de suite, ça prend une autre amplification.
Et t'imagines quand même. Donc, ils ont eu le prix de l'objet.
Ça sous-entendrait quand même que le truc serait que tu l'installerais obligatoirement chez toi et que ça ferait remonter obligatoirement tes données vers un médecin ou vers un assureur.
Mais
bien sûr,
on est sur des hypothèses qui sont quand même...
Les données sont totalement sécurisées.
Il n'y a que vous qui
avez accès à ces données. Hein.
C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'en effet, les données peuvent être transférées à un médecin, mais c'est du consentement.
Alors juste, c'est vrai qu'on a parlé de Withings et d'iVirtual. Moi, ça m'embête un tout petit peu d'avoir choisi deux entreprises françaises. Alors c'est vrai que Cocorico, et j'adore les entreprises françaises, mais je suis toujours... Parce que c'est un truc que je critique souvent les journalistes qui vont au CES et qui parlent
des boîtes françaises.
Me dis, tu vois, traverses le monde pour aller voir des boîtes qui sont à 2 km de chez toi. C'est un peu embêtant. Donc je
avec un petit bémol, cependant. Avec un petit bémol, c'est que parfois... On a beaucoup plus d'occasions de rencontrer des boîtes qu'on ne rencontre pas à Paris, parce qu'au CES, tout le monde est regroupé, parce que les journées sont très longues. Mmh. Et voilà, il y a ça, y a ça aussi.
C'est vrai, tu as raison. Aussi l'occasion d'aller
évidemment
voir les boîtes, voilà,
de se faire plaisir.
Et bien, tu veux que j'en cite, moi, je suis allée voir des entreprises suisses, et qui avaient énormément de choses sur la santé, et notamment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, donc je ne me souviens plus le nom, donc je m'en excuse, qui était un suivi pour de la rééducation. Si vous avez fracturé quelque chose, un problème, en fait, via votre smartphone et la caméra du smartphone, ils arrivent à détecter les articulations et ils ont mis en place un système de conseils et de programmes de rééducation que vous pouvez faire chez vous, sans accessoires.
Excellent.
Donc ce sont des exercices avec des physiothérapistes et c'est extrêmement, on vous dit bah là vous ne faites pas bien le mouvement parce que la caméra détecte les articulations et sait si on vous a dit de lever le bras ou pas, si c'est bien fait ou pas, et pareil avec les mutuelles et les assurances, et ça va peut-être arriver en France très vite.
Et alors toi, ton innovation étrangère, on va dire, c'est quoi? T'as vu quoi comme truc ?
Écoute, si on reste dans le domaine de la santé, il y a un truc qui m'a fait... Voilà, on reste dans la santé, dans le bien-être, on est un peu à la frontière. Mais alors, je vous l'avais sûrement vu aussi, je crois qu'il était aussi Essenveld, c'est l'oreiller anti-ronflement.
Ah oui.
Ça m'a... Et je crois que c'est coréen aussi d'ailleurs.
Mais
je trouve que l'idée est très très maligne. Hein. Donc c'est un oreiller avec des capteurs sonores, donc il analyse que t'es en train de ronfler. Et à ce moment-là, t'as des mini-coussins qui vont
se bouffler. Qui de mieux qu'un oreiller peut entendre les ronflements,
si
en fait.
Votre compagnon, votre compagne.
C'est vrai. Peut-être. Alors c'est l'autre option.
Jamais oublié ce petit point.
En termes de respect de la vie privée, c'est pas mal, parce que c'est en gros l'oreiller qui t'écoute.
Mais
tu sais si tu ronfles. Et donc à ce moment-là, il y a des petits coussins qui vont se gonfler, dégonfler pour libérer les voies respiratoires jusqu'à ce que tu t'arrêtes de ronfler.
Waouh.
Et en fait, c'est pas mal, je trouve. L'idée,
j'avais vu le proto il y a 3 ans.
C'est vrai.
Au CES, ils étaient venus déjà avec un proto qui n'était pas du tout fonctionnel, bien, avec cette idée justement d'avoir système de gonflement, dégonflement pour que tu équilibres. Je me dis, si tu ronfles trop, est-ce qu'à un moment le coussin se gonfle trop d'un côté et tu tombes? C'est ma question.
Mais tu te relèves avec un torticolis.
Tu te retrouves sur la personne à côté qui va te donner des coups de coude pour te dire que tu as ronflé. Donc c'est un système bien organisé.
Mais c'est un grand classique. Moi, j'avais testé il y a 3 ou 4 ans, je me souviens, un lit anti-ronflement qui était présenté par des Américains. Donc c'est pareil avec le système de. Enfin, c'est le matelas qui se surélevait un
petit peu.
Mettait à ronfler. Donc
mais parce que parfois il suffit de bouger de quelques degrés.
Mais c'est ça.
Pour arrêter en fait le ronflement.
Et pourquoi on donne des coups de coude?
Bon, et vous les amis, alors c'est quoi vos coups de cœur là? Qu'est-ce que vous en retenez?
Moi je veux le coup de cœur de François parce que je le connais par cœur.
Vas-y.
Et franchement, non, mais... ça le mérite.
Bon, j'en ai parlé dans Tech Hebdo, mais d'abord, coup de cœur un peu sérieux. Et après, je vous parlerai de mon deuxième coup de cœur, c'est un flipper. Mais le premier, j'ai un peu honte. Le premier, c'est quand même l'annonce Sony Honda, quand même.
Ah oui.
Parce qu'on n'a pas évoqué la puissance, en fait, de l'industrie automobile et la présence de l'industrie automobile au CES. Ça fait quelques années qu'on voit ça, Anthony. Hein, quand tu es venu aux précédentes éditions, on était quand même impressionné par le nombre de constructeurs auto qui faisaient des placements.
C'est un salon de l'auto.
C'était Stellantis, voilà, on ne va pas tous les citer, mais il y en avait un bon paquet. Et notamment Sony et Honda qui se sont associés et qui ont présenté une vraie voiture. Voilà. Alors ça fait 2-3 ans que Sony présentait un concept car. On allait là-bas un peu curieux, on se disait mais qu'est-ce que fait Sony dans la voiture? Pourquoi ils nous présentent cette bagnole, quoi? Ça sert à quoi? Moi je me disais, étant donné qu'ils sont très bons dans les composants électroniques, ils travaillent avec... en fait c'est un peu comme un équipementier automobile aujourd'hui Sony, hein, ils ont plein de capteurs et tout. Je me disais, c'est une vitrine un peu technologique pour gonfler un peu, bomber le torse et montrer un peu aux constructeurs auto qu'ils sont capables de faire. Mais en fait, eh ben, en sous-main, ils étaient en train de préparer leur voiture avec Honda. Et là, 2025, on pourra commander cette voiture et au printemps 2026, elle sortira aux États-Unis. Évidemment, voiture électrique. Après, le design, c'est toujours discutable. On aime ou on n'aime pas. Hein. Voilà, voiture de sport. Mais moi, j'aime bien à l'intérieur avec cet immense écran. Je ne sais pas si tu as vu, Anthony.
Si, ouais.
Cet immense écran d'un seul bloc qui recouvre en fait tout le cockpit, qui tourne sous Unreal Engine, qui est un moteur de 3D qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Ouais. Donc, ça va permettre des animations, une fluidité qui va être hallucinante. Bref, voilà, cette voiture,
moi, c'est... Sony, d'ailleurs, t'avais je crois que t'avais le patron, c'était quoi, Nvidia Epic Games.
Epic Games, qui est le studio d'Unreal Engine.
Bien sûr.
Génial, quand même. Tu te dis, t'avais l'impression d'être à l'E3, quoi, au salon du jeu
vidéo. Mais c'est clair, et on se rend compte, ça fait un moment qu'on voit qu'Nvidia, qui était au départ dans le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est une boîte qui fait de la puissance de calcul, ils sont dans l'automobile, etc. Mais là, on voit aussi que des outils de jeux vidéo, et notamment l'Unreal Engine, a un sens dans le soft, dans l'OS des véhicules. Et franchement, c'est impressionnant. Il me tarde vraiment de voir un peu ce que va faire Sony et Honda, ce que vont faire Sony et Honda dans ce type de véhicule. Et toi qui connais bien, comme Melinda, ce CES, qui aurait pu imaginer, il y a 5 ans, que Sony allait sortir une voiture?
Non, c'est clair.
C'est ça qui est dingue aussi. C'est que d'un coup, tu te prends une claque en disant, mais... qu'est-ce qui se passe en fait ? Le monde est en train de changer et tous ces industriels aussi évoluent. Et Sony n'a présenté aucune télé au CES.
Ouais, ça c'est une révolution. Hein.
La voiture, Amélie. La voiture, c'est un smartphone sur roue. Moi, je me souviens, c'était le patron de Ford qui nous avait sorti ça en interview, mais c'était il y a 10 ans.
Il nous disait ça. Au début de Tesla. Un peu après Tesla.
On l'écoutait et tout. Bon, ok et tout. Et en fait, il avait mille fois raison. T'as un écosystème applicatif, t'as des processeurs, t'as de l'intelligence artificielle.
Mise à jour, pareil.
Des mises à jour à distance. Et je me demande dans quelle mesure, effectivement, Sony réfléchit pas aussi à tout le côté entertainment, c'est-à-dire avec la voiture connectée.
Mais c'est certain.
Et demain, après-demain, la voiture autonome, donc niveau 3 et plus, où tu as le droit de lâcher le volant et tu as le droit de détourner le regard
mais
de la
bien
route.
Sûr.
Bah voilà, tu auras ta PS5 ou tes jeux en cloud gaming, pourquoi pas, directement sur le pare-brise de la voiture. Sony, la console Sony, voilà.
Mais déjà, alors, ce serait déjà une révolution dans les mœurs chez Sony, hein, de faire travailler toutes les branches Sony. On a eu l'impression que la voiture était vraiment, tu sais, cette expression. Chez Sony, on sait qu'ils sont très forts en musique, ils sont très forts en cinéma, très forts en jeux vidéo, mais...
Très fort en électronique.
En électronique, mais personne ne travaillait ensemble dans cette société.
Ils travaillent en silo, c'est incroyable.
Mais c'est un truc de fou.
L'équipe de PlayStation ne discute quasiment pas avec les autres équipes de Sony.
Souviens-toi, quand ils avaient annoncé des télés à l'époque, elles étaient prêtes pour la prochaine génération de consoles. C'est-à-dire que les mecs n'assumaient pas qu'ils ont la PS5 chez eux et qu'elle était prête pour la Xbox Series et la PS5. C'est quand même improbable.
C'est vrai.
Et je trouve que cette voiture est cette expression. C'est-à-dire comme s'ils avaient enfin compris qu'ils pouvaient mettre tout leur savoir-faire dans un seul véhicule. Mais elle est aussi l'expression de ce qu'on a vu au CES, c'est-à-dire que les voitures aujourd'hui, on nous a surtout parlé de divertissement et de technologie embarquée plus que de voitures un peu révolutionnaires, puissantes et tout. C'est là que j'ai trouvé qu'il y avait une vraie révolution et que la voiture était légitime dans un salon tech. Qualcomm nous en avait parlé quand moi je les avais vus à la présentation du nouveau processeur. Ce sont aujourd'hui même, eux, ils parlent plus de smartphone sur roue, mais de PC sur roue.
Ouais, de PC sur roue.
Exactement
ça. Tellement il y a de la puissance.
Qualcomm, qui a encore fait sa petite pub pour être avec tout le monde dans toutes les voitures.
Ouais.
Ils vont faire les systèmes embarqués. La voiture, elle a pu servir à rouler. Enfin, on a du mal à comprendre combien de temps ils veulent qu'on passe dans la voiture au quotidien, tellement il y aura de choses à faire dedans.
Et est-ce que vous avez vu, avant que tu parles, c'est ton deuxième coup de cœur, François.
Je voulais juste te dire un truc pour terminer sur ça. C'est que quand tu vois que des industries de l'électronique grand public se lancent dans des véhicules, c'est quand même un signe très très fort. Qu'est-ce que va faire Apple, tu vois? Parce que d'un coup, tu te dis, ça fait des années qu'on évoque
le fameux
l'Apple Car, etc. Est-ce que ça va bouger les lignes chez Apple? Est-ce que, tu vois, est-ce que ça va changer quelque chose?
L'Apple Car, tel qu'on l'imagine, c'est exactement ce que fait Sony. C'est-à-dire qu'ils vont se trouver un partenaire et pour moi, Apple ne fournira que l'habitacle, l'intérieur.
Mais finalement,
je ne les vois pas faire une voiture.
Mais Sony a coiffé sur le poteau Apple, parce que finalement, le projet Apple Car, on en parle depuis des années.
Une autre résonance.
C'est clair.
2026.
La voiture Sony, à part la Prestec, personne n'en a parlé.
Non.
Si Apple sort une voiture, je vais te dire.
Tout le monde. Et puis attends, Apple, s'ils sortent une voiture, ils vont pas annoncer un truc aujourd'hui pour 2026. Ils vont annoncer une voiture pour dans les 6 mois derrière.
Mais là où Apple va peut-être avoir plus de mal, c'est à trouver un partenaire industriel qui veuille bien bosser dans les conditions qu'il impose. Sony Honda, moi je vois très bien le truc.
On est en famille, on est japonais.
Apple, les conditions qu'ils doivent imposer, quand tu bosses avec eux, c'est en gros, tu es un peu leur esclave.
Bien sûr, c'est ça, à mon avis, qui fait que ça avance pas aussi vite.
Je me souviens, il y avait eu des informations très précises sur Hyundai, effectivement, sur des
alliances.
Il y avait des chiffres même qui avaient été avancés. Enfin, ça n'avait pas l'air de sortir de
nulle part. Même qu'ils travaillent avec eux.
Et finalement, ça avait avorté. On ne sait pas trop pour quelle raison, mais ce serait pas très étonnant que...
Politique différente et façon de voir différente. Mais en revanche, Apple est déjà extrêmement impliqué dans l'industrie automobile, puisqu'ils ont des partenaires à plus quoi savoir en faire. Ils sont avec BMW, ils sont avec Ford aussi. Enfin, ils ont quand même des partenaires potentiels forts.
Oui, mais des partenaires pour implémenter Car Audio. Enfin, comment ils appellent ça alors?
CarPlay. Oui, mais le jour où ils auront un truc costaud, t'inquiète pas, ça va se presser au portillon. Je suis pas du tout inquiète pour eux.
Non, mais c'est vrai que connaissant Apple, enfin, tu les connais mieux que moi, mais je pense qu'ils sont tellement exigeants qu'ils doivent avoir du mal à trouver le partenaire idéal.
Mais c'est sûr.
Et en parlant de BM, là, vous l'avez vu en vrai, là, la BM caméléon là, qui change de couleur.
Elle est géniale.
Tu sais qu'on l'avait vu l'année dernière.
Elle
était en noir et blanc et on passe à la couleur. C'est génial.
C'est pas mal quand même.
C'est comme la télé.
Les couleurs et les motifs quand même.
Il va à l'encontre de ce que je disais au début, c'est-à-dire les innovations qui sortent du gadget et qui vont dans le sérieux. Non, mais là, vraiment, on est sur du vrai.
C'était le plus gros.
Alors, si vous êtes avec nous à la télé, bien sûr, vous la découvrez cette voiture. C'est impressionnant. Et pour ceux qui nous écoutent, imaginez une voiture qui clignote et change de couleur quasi en temps réel.
Depuis une appli, en fait. Voilà.
C'est l'application. Ouais. En gros, elle est blanche au début de la rue et elle est rouge à la fin avec des petits carreaux.
On me faisait remarquer que c'est pas mal pour les voleurs. Poursuites avec les voleurs.
Mais oui, moi.
Tu fais un cambriolage, un braquage de banque.
Mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit.
La voiture est blanche et passe au rouge.
C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Alors après, j'ai une autre question, c'est si tu as un carambolage avec ou que tu as un petit pet, est-ce que ça te ruine tout le
concept. Je pense que l'assurance, là, tu dois avoir une prime assez impressionnante.
Ouais, tu m'étonnes.
Et puis, je pense que tu n'as même pas le droit de rouler avec ce type de voiture, parce que changer de carrosserie sur la carte grise, c'est interdit.
Hein. À moins qu'aux États-Unis.
Oui, sur ta carte grise. Ouais. T'as la couleur de ta voiture.
Bah oui,
c'est vrai.
Et là, tu ne peux pas dire, tout dépend. Mais la couleur de votre voiture,
c'est comme le genre.
Tout dépend,
les gars. Gender fluide, elle est color fluide.
Elle est color fluide.
C'est pas de quelle couleur.
C'est ça. Incroyable. Bon. Ça, c'était l'automobile. On pourra en parler pendant des heures, l'auto, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes. Mon deuxième petit coup de cœur, c'est un flipper. J'en ai parlé dans Tech Hebdo, parce que moi, je fais partie de la génération flipper. J'ai grandi avec ça et j'ai toujours été fasciné par l'ingénierie en fait, des flippers, l'électromécanisme, les bumpers, enfin, tous ces trucs-là m'ont toujours fasciné. Le flipper qui a connu ses heures de gloire, mais qui a aussi connu le fond du trou dans les années 90, on va dire, c'était plus un produit très à la mode. Et là, il revient grâce à une boîte qui s'appelle Stern. Et c'est une boîte vraiment de familiale, Stern. Il y a Monsieur Stern, tu vois, le vieux gars, fan de flipper, qui a décidé de relancer de grandes franchises avec des flippers. Donc, t'as Jurassic Park, t'as les Avengers, t'as Star Wars, bien sûr, et t'as James Bond. Et ils présentaient donc au CES de Las Vegas leur tout dernier flipper, James Bond. Et là, crois-moi, j'étais un gamin devant ce truc-là, mais j'hallucinais. Parce que
il est trop beau, il est magnifique.
Déjà, il est superbe. C'est un vrai flipper avec les multiballs, tous les toys, les gadgets, etc. Parce que il y a plein de petits gadgets, les balles sont soulevées, il y a plein de trucs. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de tech dans ces produits-là. Les flippers sont connectés, tu peux les connecter à ton smartphone pour partager les scores, pour faire des mises à jour, pour télécharger de mini-jeux. Et moi, je trouve ça génial de mixer en fait le vintage, parce que le flipper, c'est le vintage, et la technologie. Et le résultat des deux, ce n'est pas un produit hybride qu'on se dit ça ne sert à rien. C'est vraiment un vrai plaisir. Voilà.
Et tu sais combien ça coûtera ou pas, ça ?
Ça coûte cher.
Bah, oui,
un flipper comme ça, je me suis renseigné, ça commence à peu près aux alentours des 10 000 euros.
Ah ouais, quand même. Ouais.
Mais bon, voilà.
C'est un beau produit.
C'est un bel objet. Et puis après, tu n'es pas obligé de mettre... Bon, alors, c'est pour le James Bond, mais si tu veux, tu peux trouver sur le bon coin de vieux flippers à quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Quoi. C'est cool. On referme la parenthèse. Alors, vas-y, Mélinda, toi, ton coup de cœur.
Moi, j'ai fait de la VR au CES.
T'as fait de la VR au CES.
J'ai fait beaucoup de VR. J'ai fait aussi un petit tour en Cadillac, excusez-moi du peu, vieille Cadillac des années 60, pour tester de la VR. Alors oui, vu comme ça, ça présentait comme ça, ça a l'air d'être n'importe quoi. Mais en fait, j'ai testé, on parlait tout à l'heure de la voiture, le divertissement en voiture, et justement le divertissement en réalité virtuelle. Alors on se dit toujours, le problème de la réalité virtuelle, c'est que ça peut donner mal au cœur, déjà quand vous n'êtes pas en voiture. En voiture, ça va être la cata. Et en fait, eh bien non. J'ai testé une expérience qui s'appelle Holoride. Alors, c'est une start-up allemande qui travaille avec HTC, donc les casques HTC Vive, et notamment le Vive Flow, qui sont une espèce de lunettes de réalité virtuelle qu'ils ont sorti il y a quelques mois. Eh bien, ils ont trouvé un système pour l'embarquer dans les voitures. Alors, si vous avez la chance d'avoir une des dernières Audi, ce sera système embarqué directement. Vous connectez les lunettes et le tour est joué. Sinon, ils ont inventé un petit module qui s'appelle Retrofit que vous pouvez mettre dans n'importe quelle voiture. Et ça connecte les lunettes, alors qu'ils doivent être branchés à votre smartphone dans ce type de voiture, au mouvement de la route. Donc, tous les jeux et les expériences que vous allez avoir dans les lunettes vont être calibrés par rapport au mouvement de la route. Si vous allez tout droit, si vous tournez à droite, gauche, si vous freinez, et ben les jeux en fait, qui sont dedans sont étudiés pour. Donc, j'ai fait, par exemple, la première expérience que j'avais faite en pixel, c'était très drôle. Dans les lunettes, j'étais dans une voiture. Donc, j'avais le papa et la maman qui conduisaient. Je voyais l'environnement. Et donc, quand il y avait la vraie voiture tournait à droite, dans mes yeux, ça tournait à droite. Et moi, j'étais comme en train de jouer sur une petite console derrière. Et c'est vrai qu'on évite le mal de cœur. Même sur des jeux, j'ai fait des jeux un peu plus nerveux, des jeux de tir notamment. C'est pareil, vous affrontez des vagues d'ennemis. Et bien, elles viennent de la droite ou de la gauche ou en face de vous, selon le mouvement. Il y a plein d'expériences comme ça. Et je trouvais ça assez sympa parce que vraiment, on a pas mal au cœur. Alors, c'est aussi compatible avec les services de streaming. Je voudrais bien savoir comment, quand je regarde un film... Si je commence à calibrer pour le...
Déjà, les casques de verre me rendent malade. La voiture me rend malade. Donc, le casque de verre dans la voiture, si tu veux, je ne suis pas du tout confiant. Même si tu... Je voudrais bien tester, mais...
C'était très sympa.
Alors, moi, je suis comme toi en voiture, je suis malade, mais c'est horrible.
Et bien là, écoutez, on a dû faire 20-30 minutes de voiture.
Ça s'est bien passé.
Dans une Cadillac 1967, je peux dire que...
Trop belle, j'ai vu sur tes réseaux, c'était trop bien.
Magnifique, magnifique.
On était tellement contents. Droite des États-Unis.
Mais non, on était en Vegas, donc on s'est fait les tours, les bouchons, les machins, tout fait.
Okay.
Et honnêtement, c'était pas mal. Moi, j'ai pas eu mal.
Alors... J'aimerais bien tester ça sur une route corse entre Ajaccio et Bastia, tu vois. Je sais pas si tu feras autant la maline.
Tu m'emmènes dans ta voiture.
Je t'emmène dans ta voiture.
Mais donc, c'est connecté à un smartphone ou si vous avez une Audi, alors c'est quoi, les Q5, je ne sais pas, les dernières, qui ont le système embarqué. Pareil, on parlait divertissement embarqué. Elles ont le système et vous n'avez pas besoin de smartphone ni rien. C'est connecté à la voiture directement et ça, surtout, ça suit les mouvements. Et ça, c'était pas mal parce que c'est vraiment le problème de manière générale si on est un peu malade en voiture. Et la VR rajoutant une couche,
ça rajoute encore au côté convivial du voyage en voiture.
Hein, ouais, c'est ça.
Alors, tu vois, familial.
Déjà,
aujourd'hui, c'est tout le monde a ses écouteurs.
Mais...
le casque VR, c'est vraiment.
Quand vous avez des enfants à l'arrière.
T'es là finalement dans la voiture, je t'ai pas vu. Tu viens en vacances avec moi.
C'est vraiment
ça, c'est
ça,
cool.
Quand vous avez des enfants à l'arrière, alors évidemment, c'est plutôt réservé à 7 ans et plus. Parce que pour les questions justement de mal de cœur, mais enfin prenez des enfants ou des ados dans la voiture derrière et puis vous allez voir si ça change grand chose de les avoir avec un casque de verre ou pas.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est
pas non, mal. Ils écoutent déjà rien, ça changera rien. Mais bon voilà, c'était pas mal. Et ce casque qui n'étant pas pour moi une grande réussite, le Vibe Flow, trop cher pour ce que c'est, je trouve que là il a une utilité
plus intéressante. Ouais. On va faire une toute petite pause puisqu'on va attaquer notre deuxième partie de quoi je me mêle. On va parler VR, on va parler ChatGPT, on va parler d'AR. Vous restez avec nous, que vous soyez sur BFM Business, à la radio, à la télé, ou sur YouTube, ou en podcast. On revient tout de suite, deuxième partie de De quoi je me mêle.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà le retour de ce De quoi je me mêle. Merci de nous suivre à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, le week-end, le podcast audio, le replay vidéo sur la chaîne Tech & Co, bien sûr. Si vous avez une box Orange SFR Free ou Bouygues, zappez et vous tomberez sur la chaîne Tech & Co qui vous tient au courant de toute l'actualité tech 24h sur 24, 7 jours sur 7. De quoi je me mêle, deuxième partie, on débrief évidemment l'actu, c'est le club de la presse IT, avec toujours Mélinda Davansoulas et Anthony Morel. On a bien parlé du CES, je vous propose les amis d'enchaîner sur l'actualité de ces derniers jours. Et Anthony, tu voulais nous parler donc de ChatGPT, qui a été quand même la grosse claque de cette fin d'année 2022. Et on se rend compte un petit peu des répercussions que ce truc est en train d'avoir dans... énormément de domaines en fait.
Ouais, absolument. Je pense que ça va être notre fil rouge de 2023 en fait. On va en parler pendant toute l'année. Et c'est vrai que fin 2022, quand l'outil est sorti, ça a été le moment de l'émerveillement, de la stupéfaction, de la fascination. Et je pense que 2023, ça va être l'année où on voit les applications réelles, les applications concrètes dans plein de domaines, comme tu le disais. Alors, il y a à la fois, et c'est ce qui malheureusement, j'allais dire, retient l'attention du grand public, les dérives que ça peut entraîner, par exemple la triche à l'école. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé cette semaine, alors, y compris dans les grands médias, de cette histoire assez dingue. Hein. D'ailleurs, l'Université de Lyon, un prof qui s'est rendu compte que la moitié de sa promo lui avait rendu une copie écrite par ChatGPT. Donc en gros, il y avait un sujet de dissert, c'est une dissertation d'histoire, et la moitié des étudiants avaient demandé à ChatGPT de leur écrire leur dissertation.
Comment s'en est-il rendu compte ?
Écoute, alors apparemment, c'est vrai que ChatGPT, normalement, quand tu lui proposes deux fois le même sujet,
Il
te le tourne différemment. Mais bon, au bout de 10 fois ou 20 fois, peut-être qu'il y a quand même des bouts de phrases ou des bouts de mots qui étaient une structuration qui était un petit peu similaire, et il s'est dit
qu'il y a
un truc qui est bizarre. Et donc du coup, il s'en est rendu compte.
Parce que lui, c'est vrai qu'en corrigeant son flot de copie, il doit voir en
exactement.
Fait les mécanismes les mêmes tournures de phrases, etc.
Alors je pense que les mecs ont pas dû tellement se fatiguer, parce que en vrai, si tu prends le résultat de ChatGPT et que tu prends deux minutes pour personnaliser
c'est fichu. Personne ne peut voir quoi que ce soit.
Et je pense que de toute façon, avec les améliorations de ChatGPT au fil des mois, d'ici quelques mois, je pense que ce sera impossible de faire la différence quoi qu'il arrive. D'autant que tu pourras lui demander d'imiter ton propre style.
C'est ça,
tu vois.
Faut l'entraîner. Le truc, c'est qu'il faut l'entraîner.
Est-ce que vous avez vu, les amis, ce jeune gars, je crois que c'est un Américain qui a mis au point une API, tu voulais en parler ?
Ouais, absolument.
Alors je te laisse parce que c'est vraiment impressionnant. Vas-y.
Qui veut justement détecter la triche sur ChatGPT. Donc
tout
c'est une sorte d'anti-ChatGPT qui s'appelle GPT-0.
Tu mets ton texte dans cette API et ça te dit si ça a été créé par les algos de ChatGPT.
Exactement. Alors, ce n'est pas encore hyper fiable. En gros, les éléments qu'il va aller chercher, c'est est-ce que l'écriture est trop lisse, trop structuré. Si c'est trop parfait, en gros, c'est que ça a été probablement écrit par la machine. Mais ce n'est pas du 100%. Ce qui va être très intéressant, alors cette initiative est très intéressante effectivement, et moi je pense que le seul moyen de lutter, en tout cas sur la triche à l'école contre ChatGPT, c'est les créateurs du logiciel, enfin de l'outil eux-mêmes.
Ils l'ont dit, ils travaillaient.
Ils l'ont dit, hein, ils veulent créer une sorte de filigrane, sur un truc un peu comme sur les billets de banque, qui ne sera pas forcément visible à l'œil nu, mais qui, lorsque tu le passes dans une machine, et les profs pourraient avoir accès à cet outil-là, te permet de savoir à coup sûr si en gros, on est passé par ChatGPT ou pas. Et là, pour le coup, ça pourrait être efficace.
Mais il y a 2-3 moyens quand même de détecter ChatGPT dans l'écriture. On le disait la dernière fois, bon, alors, il n'y a pas de style. ChatGPT, il n'y a pas de style, sauf si on l'entraîne vraiment à son propre style. Mais enfin, ça, à moins de passer, par exemple, nous, nos articles et que ChatGPT comprenne. Non, c'est que ChatGPT, en version française ou américaine, en fait, a un ton très neutre, mais aussi neutre dans l'emploi des pronoms. Donc, il se mouille jamais. Donc, il y a ça qui fait que, pour nous, par exemple, ça va être beaucoup de tournures très impersonnelles, des choses comme ça. Et c'est vrai que je pense que dans des copies de fac, quand on a des copies un peu uniformes et un peu sans personnalité, ça se sent. On l'avait dit, il n'y a pas d'humour chez ChatGPT. Il ne comprend pas l'humour.
Il y a un humour pas très drôle.
Il y a un humour pas très... Non, mais voilà.
Il essaie d'en faire.
C'est un peu bas de gamme, quoi. C'est pas... Il n'y a pas de finesse de style.
On critique, mais parfois, c'est hyper bluffant.
Ah, mais c'est clair.
Ah non, mais c'est complètement
bluffant. Non, mais moi, je pense que... Là, on en parle en plus, mais encore une fois, on est au tout début. Moi, je pense que d'ici 6 mois, 1 an...
Ça va s'améliorer.
Ça va être incroyablement plus sophistiqué.
Ça sera connecté au moteur de recherche, Bing, Microsoft, Google, ça va être terrible.
Moi, je pense que là, le monde, alors pour finir sur le côté triche, parce qu'il y a plein d'autres applications à aborder, mais là, le monde de l'éducation va être complètement désemparé par rapport à ça, parce que là, ils sont en train de se dire comment on va lutter contre ça, et en fait, on n'arrête pas la marée avec une serpillière. Moi, je pense que le combat, il est perdu d'avance. Si
c'est clair.
C'est vraiment, il faut repenser le devoir à la maison. Il faut dire, peut-être non, on fait que des devoirs sur table, j'en sais rien, mais en tout cas, cette partie-là, on n'arrivera pas à lutter contre cette machine-là. Donc ça, de ce côté-là, il faut arrêter. D'autant que, et tu as raison de le souligner, ça va s'intégrer dans tous les outils de la vie personnelle, le moteur de recherche. Et effectivement, alors c'était ça qui est très intéressant, hein, Microsoft qui veut investir 10 milliards de dollars dans OpenAI. Ils veulent intégrer ça dans Bing, dans Word, dans Outlook. Donc ta boîte mail, tu auras peut-être un petit bouton qui te permettra de répondre. Voilà, mon manager, comment est-ce que je vais lui expliquer que j'ai pas rendu le dossier Moulinard là? Attends, vas-y, ChatGPT, tu m'écris un mail là, et puis tu me trouves 2-3 bonnes excuses bien senties, écris-moi le mail. Boum, le mail est écrit et il est envoyé au manager. Mais... c'est
un jour que fait Gmail, hein, c'est déjà avec les pré-réponses. Elles sont adaptées aussi à ce que tu envoies.
C'est moins malin.
Mais il y a quand même un truc qui est assez terrible, c'est qu'à un moment, si on s'en remet qu'à ChatGPT, c'est-à-dire plus personne n'est capable de réfléchir en fait. Hein, c'est ça l'idée. Basiquement, quand on en vient à faire ses devoirs, c'est de la fainéantise. Mais au bout d'un moment,
c'est une assistance supplémentaire. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'époque où on avait des téléphones normaux, où on était obligé de retenir les numéros de téléphone.
Mais oui, bien sûr.
Aujourd'hui, combien de téléphones de numéros de téléphone portable avez-vous retenu? À l'époque, moi, on les connaissait tous par
cœur.
Alors, c'est peut-être, je schématise, c'est peut-être caricatural ce que je dis. Mais aujourd'hui, on a ça, on a tous nos numéros.
C'est une extension de ton cerveau.
Et on ne fait même plus d'efforts.
Mais c'est ça, on ne fait plus d'efforts.
Et je me dis que demain, avec ChatGPT, même nous qui faisons un peu de travaux intellectuels, on va se soulager sur certaines choses avec ce type d'outil.
Oui, mais en fait, alors c'est toujours pareil dès qu'on parle d'une technologie.
On pourrait en parler pendant des heures.
Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et là, on voit le côté, par exemple, si on prend sur les travaux scolaires, justement, on peut voir le côté triche, mais on peut aussi voir le côté incroyable en termes de vulgarisation. C'est-à-dire, explique-moi la théorie de la relativité comme si j'avais 5 ans. Et il te fait une explication d'une vulgarisation absolument dingue qui va te permettre, pour le coup, c'est un outil d'apprentissage. Moi, sur plein de sujets, je lui ai demandé, des sujets un petit peu polémiques, donne-moi les arguments pour et les arguments contre. Et il te fait une synthèse, c'est génial, ça te fait gagner un temps fou sur plein de trucs.
Tu as l'effort intellectuel d'en faire cet usage. Le problème, c'est que là, quand on parle d'éducation, on parle de gens qui cherchent la simplicité, pas qui cherchent à apprendre. Comme Google, en fait, nous, on sait l'utiliser pour faire des recherches. Enfin, les gens qui ont connu l'avant Google, où il fallait aller en bibliothèque, des trucs bêtes comme ça.
Comme on est vieux, en fait.
Oui, mais on a su approcher la technologie différemment. Quand la technologie, elle vient à toi, ça j'en reste persuadée, pour avoir aussi une fille qui est en âge de prendre les choses comme ça, et heureusement pour elle, elle vit dans une famille un peu tech, donc il faut qu'elle bidouille. Quand tu prends la technologie et que c'est une véritable aide, c'est aussi un danger si tu ne préviens pas les gens. Et là, pour moi, l'utilisation qui en est faite déjà dans les universités, c'est-à-dire le détournement même gentillet, c'est un risque. C'est un risque pour la réflexion et pour, pour la pensée. Et je pense qu'à un moment, bah, ChatGPT, il n'aura plus rien. Il pourra se nourrir de rien du tout parce qu'il n'y aura plus personne pour penser. Non, j'exagère. J'extrapole.
Je pense qu'on a ce réflexe-là, mais en vrai, si tu prends un petit peu de recul, ce n'est pas si différent que ça du gars qui allait copier-coller sur Wikipédia.
Bien
ou même à notre époque, de pré-Wikipédia, qui allait prendre un bouquin dans l'une bibliothèque et qui recopiait plus ou moins le bouquin. Tu vois. Alors, il y avait l'effort quand même de recopier le bouquin.
C'est ce que j'allais dire. La différence, c'est que tu enregistrais comme ça. Là, tu vas rendre ta copie ChatGPT, c'est quand même autre chose.
Ouais. Mais encore une fois, vraiment, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Bon, c'est de ma faute, j'ai commencé par ça, mais il faut voir tous les aspects positifs qu'on peut en tirer de cet outil.
Enfin,
tu vois,
je
vois les développeurs informatiques le truc, leur écrit ou leur corrige du code en deux secondes. Alors, effectivement, là aussi, les enjeux, c'est que aussi, tu as les mecs qui font des malwares, ils s'en servent pour écrire des malwares aussi de l'autre côté. Et alors, vous avez vu cette application, alors dans un tout autre domaine, là, c'est la justice. C'est incroyable, c'est l'intelligence artificielle avocate. Alors c'est un outil qui s'appelle Do Not Pay, qui est basé sur GPT-3, donc c'est la même base en fait que ChatGPT. Et en fait c'est un outil, alors c'est une application aux États-Unis et tu peux t'en servir comme d'un assistant juridique, donc il répond à toutes tes questions, il peut gérer même ton divorce, il envoie des mails à l'avocat de la partie adverse, des trucs assez dingues et tout. Et en fait ils veulent le faire passer à l'étape d'après et ils vont faire un truc alors qui est complètement illégal aux États-Unis, mais c'est une sorte de défi, puis ils se font un petit coup de pub au passage. C'est qu'un mec qui va aller contester un PV pour excès de vitesse, donc dans un tribunal américain, ils vont l'équiper d'une oreillette qui sera connectée à ChatGPT, enfin à ce petit outil, et en fait le mec va répéter ce que lui dit l'intelligence artificielle, donc les arguments qu'il va donner face au juge vont être ceux qui vont lui être suggérés.
C'est l'oreillette ChatGPT.
C'est vraiment ça. C'est l'humain qui est piloté par la machine.
Tu es avocat aussi maintenant.
Non mais t'imagines le truc.
On n'entend plus tous les métiers.
Mais c'est dingue.
Non mais
quoi.
C'est dingue.
C'est hallucinant. Et donc ils sont prêts à payer. Alors ils veulent faire un truc un peu dingue. Ils sont prêts à payer $1 million à un avocat qui ira plaider un cas devant la Cour suprême américaine. Même chose avec l'oreillette. Et ChatGPT dans l'oreille.
Ouais. On va tous pouvoir devenir avocat, c'est formidable. C'est ça la vraie nouveauté de ChatGPT.
Non, mais c'est ce qu'il y a. Alors, l'avocat, je pense que c'est encore un métier intellectuel qui a encore de belles années devant lui.
La rhétorique.
Mais ça va.
Tant que ChatGPT n'aura pas la rhétorique d'un avocat.
Ouais, je pense pas qu'il ait tout de suite la rhétorique. Mais en revanche, ça va bouleverser des métiers entiers, la comptabilité, enfin voilà.
Bien sûr.
Plein de trucs où tout va exploser et ça va faire disparaître des métiers.
Ça va les transformer. Tu sais,
c'est une manière polie de dire que ça va...
Comme les robots n'ont pas non plus complètement d'effet. Tu sais, on a souvent parlé des magasins, alors type Amazon, où tu sais, on a retiré tous les vendeurs, tu ressors. Ça n'a pas tué le métier.
Il y a moins de monde quand même dans les magasins, tu vois ce que je veux dire. Il y a moins d'employés.
Il y a besoin de gens. Il y a quand même toujours besoin de gens.
Il y en a moins.
Mais ce ne sont pas les mêmes métiers. Je pense que ça ne tuera pas tous les métiers, mais
non,
ça,
et puis
ça change.
C'est pareil, tu as les études qui montrent. Alors, je ne sais jamais comment ils arrivent à ces chiffres, que 80 ou 85% des métiers qui seront pratiqués en 2035 n'existent pas encore.
Oui,
en gros, il y a tout un... En fait, je pense que le truc, c'est qu'il faut en être conscient et qu'il faut qu'au niveau, surtout de la France, si tu veux, que... on prenne ça en compte, y compris dans la formation, à l'éducation nationale, pour dire, voilà, il va falloir former des élèves qui, d'une part, effectivement, pourront faire tous leurs devoirs via ChatGPT et à des métiers où l'humain aura encore une valeur ajoutée face à la machine.
On est d'accord.
Et ça, c'est le sujet qu'il faut prendre à bras le corps, mais il faut le prendre aujourd'hui, parce que dans 10 ans, ce sera clairement trop tard.
Après, c'est là où je vais faire ma vieille aussi. Je pense qu'il y a des choses que ChatGPT peut remplacer, les devoirs, on est d'accord. Il y a des choses que ça ne pourra pas remplacer, c'est l'apprentissage, l'effort et des choses qui sont aussi des valeurs qui te servent plus tard. Donc, on aurait tous rêvé d'avoir ChatGPT quand on faisait des études et qu'on n'avait pas envie de finir un devoir à 3 heures du mat, ça c'est sûr. En revanche, ça apprend aussi d'autres choses que ChatGPT n'est pas encore en mesure d'apprendre. Peut-être la prochaine évolution. Il faut aussi rappeler aux gens que OpenAI, c'est quand même une start-up qui existe, enfin, c'est plus une start-up d'ailleurs, depuis très longtemps, et que ChatGPT ne sort pas de nulle part. Tu as parlé de GPT-3, ça fait quand même des années qu'on voit le truc venir. Là, c'est le niveau supérieur. Donc, qu'est-ce qui nous attend encore avec eux la fois suivante? Moi, c'est ça qui m'inquiète.
Moi, je suis très impatient parce que tout comme vous, j'ai reçu une invitation de Google pour parler d'intelligence artificielle. Ouais. Et à mon avis, Google n'a pas du tout apprécié l'épisode ChatGPT parce qu'ils se sont fait coiffer au poteau sur ce sujet-là. Et ils vont dégainer leur solution.
C'est clair.
Et à mon avis, ça va être assez
rare. Et on m'a dit, ce sont des annonces monde.
Ah oui, oui.
Qui arrive mais... là. Ce sont des... C'est une grosse annonce monde.
Je pourrais mettre ma main au feu que c'est lié en fait à ChatGPT, etc.
Bon, c'est sûr.
Mais et que Google va dégainer son outil.
Tu te souviens là qu'il y avait eu une histoire assez mystérieuse chez Google il y a quelques mois. Tu te souviens de cet ingénieur
mais oui.
Il était persuadé que l'IA sur laquelle il travaillait
avec Google
avait pris conscience. Tu sais, alors, bon, il est complètement timbré et tout ça. C'est vrai que. En tout cas, ça montre bien que si un mec. Qui est quand même ingénieur, tu vois, qui est dedans et persuadé de ça. Si lui-même arrive à se faire convaincre par l'intelligence artificielle que l'IA est consciente.
Bon, s'il n'avait pas de bouteille de vodka autour. C'est ça le truc.
Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont sûrement un truc assez solide nous proposer.
Clair. Je pense. Ouais. Bon, ça m'étonnerait. Le contraire m'aurait étonné de leur part.
Bon, ChatGPT, on aura d'autres occasions, évidemment, d'en parler. Ça mériterait même une émission entière sur ce sujet.
Clairement.
Mélinda, tu es venue avec.
Je suis venue accompagner.
L'Arlésienne, j'ai envie de dire.
Ah, mais oui, elle
parce
est là.
Parce que ce casque, les amis. Ce casque, ça fait tellement longtemps qu'on court après. C'est chaud, hein. Alors on sait que chez Meta c'est un peu compliqué là en ce moment.
Quand même.
C'est voilà le Quest Pro.
Il est là.
Il est sorti fin d'année dernière et enfin on peut le tester.
Voilà, moi j'ai pu le tester un petit peu au CES. J'avoue. Enfin, je l'avais testé un petit peu avant, pris en main sur les mails au CES, j'ai pu avoir un
t'as testé
un
le PSVR2 aussi, non ?
Non, j'ai pas,
pas pu.
Toujours pas, tu sais.
Non, c'est
je salue, c'est Nicolas qui l'avait testé. Je salue d'ailleurs Sony qui nous a fait des complications pas possibles pour le tester. Donc on attendra, il sort fin février le PSVR2. Ouais. On aura l'occasion de s'en reparler.
Ça aussi, je suis impatient.
Mais alors celui-là, honnêtement, j'ai commencé donc les tests. C'est quand même. Là, ils nous ont pas menti, c'est quand même un sacré truc.
Tu veux pas le mettre pour qu'on se rende compte un peu ?
Ah, vraiment, j'ai vraiment perdu toute dignité depuis le CES.
Mélinda, tu as perdu toute dignité depuis que tu as mis le casque aspirateur de Dyson. C'est ce jour-là.
C'est vrai, ce jour-là, c'était le début de la fin.
Voilà, c'était le début de la fin. Donc, tu ne peux que dégringoler.
C'est vrai, tu veux dire que ce que j'ai fait au CES, c'est encore crédible. Ça promet.
Je l'ai vu faire du kayak avec un casque de verre sur la tête au CES,
oui,
c'était pas mal non plus.
On a les images, c'était avec l'autre casque qui a été annoncé, le HTC Vive XR Elite, qui est le concurrent, qui se positionne en concurrent du Quest Pro et qui est pas mal aussi, mais qui est quand même un ton
en dessous
pour
ça.
Un prix à peine en dessous. Ça, c'est un autre problème. Bon, alors attendez, regardez à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Donc, on ne perd plus rien.
Yes.
Donc, vous avez toujours...
Bon, ça va, ça te va bien. Hein.
C'est vrai.
Moi, je le trouve joli.
Oui, il est joli. Mine de rien, il est plus petit que le Quest 2. Hein.
Ouais. Il est assez... Bon, tenez, parce que je te le passe que tu regardes, il est assez ergonomique.
J'ai eu l'occasion de le tester.
Toi, tu avais pu le tester aussi.
Pour te dire, j'ai un pote qui l'a.
Ben oui.
Et je l'ai testé pendant les vacances de Noël. C'est impressionnant. Vraiment.
La qualité d'image.
Moi, ce qui m'a impressionné, exactement, c'est la qualité d'image. En fait, ils ont mis dedans une résolution d'écran qui fait que c'est une claque.
C'est vraiment une claque.
T'as le même store que le Quest, hein, c'est pareil.
Exactement la même chose.
Donc il est de meilleure qualité.
J'ai dupliqué. T'as un tout petit bouton normalement, je crois, sur la branche. Ouais. Et après, tu peux le mettre. Il est vraiment de très très bonne. Alors, ce qu'il faut évidemment tester là, c'est l'autonomie, parce que c'était quand même. On sait que c'était un peu le bas qui blessait, dirons-nous. On est à un produit qui a 1 800 €. J'annonce tout de suite la douloureuse.
Parce que tu te prends un selfie avec ton masque.
Je fais le petit selfie quand même.
Ouais, bien sûr,
lui aussi, raison. Il avait
par
sa
contre,
photo.
Je me vois pas, ça le problème. Enfin, c'est pas grave.
Je t'en fais une si tu veux.
Bah, vas-y, vas-y.
Alors attends, il faut que je prenne. Vas-y, mais garde.
Allez-y, tiens.
Non, mais vas-y, mais Mélinda,
je vous raconte.
Oui, je vous vois à travers en plus.
Mais
c'est
oui,
ça. Okay, génial. Ouais, très
mais
bien.
C'est de la réalité mixte. C'est-à-dire que vous avez de la réalité virtuelle comme le Quest 2. Sur un niveau au-dessus, parce que l'écran, je ne sais pas si tu es dans l'environnement, tu as eu le temps de voir l'environnement intérieur, donc ce qui est Horizon, là, Horizon. Moi, la qualité de la dalle vraiment m'a bluffé. Par rapport à tout ce que j'ai essayé, et Dieu sait que j'ai essayé beaucoup de choses en VR, j'avoue que c'est extrêmement qualitatif. C'est du mini LED, si je ne me trompe pas.
Et puis, il est confortable.
Il est confortable.
Ouais. Il est plus léger,
beaucoup
j'ai l'impression.
Plus que le Quest.
Qui était déjà mieux que le 2 était déjà mieux que le 1, mais celui-là encore
puis,
mieux.
Et puis, il est plus petit, il est plus compact. Hein. Mine de rien, on voit que petit à petit, on arrive à miniaturiser le truc en l'améliorant.
Alors, le Vive, pour le coup, le Vive que j'ai testé est plus petit. Il est plus compact. Il propose la même chose de la réalité mixte, mais le passage réalité. Donc là, tu nous vois parce qu'il y a plein de capteurs autour. Je trouve que la qualité du
Quest
Pro, la restitution de l'environnement, est meilleure que celle du Vive. qui est pas mal, mais qui est un petit peu, qui fait un peu flou à côté. Là, les effets de lumière
tu
sont
nous
bien.
Vois bien là
ouais, je vois très bien. C'est vrai, et c'est vrai qu'en termes de, juste de confort, là, enfin, c'est le jour et la nuit par rapport à ceux que j'ai pu tester jusqu'à présent. Alors, moi, je pense que ça reste encore, je vais faire mon rabat-joie, mais encore trop encombrant.
Oui,
si on veut
sûr.
Une adoption massive, non, comme non, on en a souvent clair. Parlé, le métavers, blablabla.
Mais il y a une amélioration.
Mais il y a clairement une amélioration. Et ça nous dit aussi, tu vois, c'est aussi un signal envoyé. On dirait, les gars, on bosse, on avance. Peut-être que dans 2, 3, 5 ans, on aura vraiment des trucs qui ressembleront à des lunettes, quoi, quasiment.
Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est encore un petit peu massif. En revanche, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le passage virtuel augmenté. Là, c'est d'une fluidité, c'est d'une rapidité et d'une fluidité. Vraiment, j'ai fait des expériences où vous passiez de l'un à l'autre. Qualitativement, on a vraiment l'impression, vous savez, un peu d'être dans les dessins animés Disney qu'on regardait avant. Type, alors, Mary Poppins en mieux fait, mais pour vous donner une idée, où d'un seul coup, on passe dans un univers qui est animé, ou Roger Rabbit, pour aussi les plus vieux. ce côté, vraiment, le côté virtuel s'immisce dans le réel, et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Il faut que je teste un peu plus les applications. Alors, ce qu'était Workroom, ce fameux espace de travail qui est normalement, parce que, rappelons-le, c'est un casque qui s'appelle Pro parce qu'il est pour les professionnels, pas parce qu'il est avancé.
Oui, mais parce qu'il est cher aussi.
Mais parce qu'il est très cher.
Combien déjà ?
Il 1800 euros. Mais 1400, le HTC, qui pour moi, par exemple, le HTC vaut deux fois moins en prix, est plus près du Quest 2 en ajoutant un peu de réalité mixte que le Quest Pro.
Et par rapport à l'HoloLens 2, tu avais testé
alors,
ou pas ?
HoloLens, j'ai testé ça.
Moi, j'avais
le 1
été
et
assez
2.
Bluffé par HoloLens 2, je me souviens.
HoloLens 2 était déjà une énorme progression. Alors, c'est le casque de Microsoft, pour ceux qui ne sauraient pas, qui est un casque de réalité mixte aussi, qui était vraiment le premier opérationnel, qui est dédié vraiment, alors pour le coup, aux professionnels, parce qu'il n'a que des applications B2B. Je trouve que celui-ci a une meilleure zone de vision. Mmh. On voit beaucoup plus de choses. Ce qui m'avait gêné avec le HoloLens, c'est que j'avais l'impression d'avoir une vue extrêmement restreinte pour tout. Mais les informations s'affichaient mieux, peut-être. Elles étaient plus faites pour afficher sur HoloLens.
Ce qui m'avait bluffé avec HoloLens, mais je crois que c'est pareil avec celui-ci, je parle sous ton contrôle, c'est le contrôle visuel, justement.
Oh, le suivi visuel.
Le suivi visuel, j'avais trouvé ça absolument dingue. C'est-à-dire, vraiment, tu avais un texte qui défilait, genre en mode prompteur, et tu lisais, tu avais passé une ligne, tu avais loupé un mot, hop, tu remontais, mais voilà, c'est quasiment instinctif, si tu veux. Et le truc arrivait à te suivre au millimètre près.
Ouais,
c'était incroyable.
Les commandes de celui-ci, pareil, avec les yeux dans le casque, c'est dingue, c'est extrêmement réactif. Vraiment, tu peux suivre. J'ai pas tout fait encore avec, hein, je vous l'avoue. Par rapport au, j'ai un peu plus fait le Vive. Le Vive a les contrôles gestuels, par exemple. On peut se passer complètement des manettes sur le Vive. Celui-ci, normalement, à peu près, mais j'ai pas encore testé assez pour vous dire oui ou non. Ça, pour le coup, sur le HTC, c'est assez impressionnant, le rendu des gestes. Ça permet de faire du kayak, certes, avec des accessoires, même si la détection du kayak était assez moyenne. Mais voilà, c'était intéressant. On attend celui d'Apple qui, à mon avis, va vraiment populariser et démocratiser la réalité.
Alors justement, belle transition,
t'as vu,
Melinda.
C'est cadeau.
C'est la classe quand même.
C'est un métier. Hein.
Eh ben oui. Elle me glisse les plats comme ça. On se croirait dans un resto
si
3
étoiles.
Si on
parlait d'Apple.
Oui, parce que l'actualité, on rebondit là-dessus. Ça commence à se préciser.
Ouais.
Hein.
J'ai l'impression qu'on dit ça depuis 2 ans. Mais t'as raison.
Mais là encore, celui qui balance toutes ces news, c'est pas n'importe qui.
Non, hein. Mark Gurman, le fameux...
qui en général ne se trompe pas.
Le journaliste le mieux informé au monde sur Apple.
Ou très peu. Et il dit que voilà, le casque est dans le four, là.
Le casque est dans le four, j'espère pas, parce que je suis pas sûr que ce soit bon dans le four. Quand même, mais...
Non, ça va pas bien marcher après.
Après, ça fonctionne toujours tout de suite.
Enfin, il est chaud, quoi.
Il est chaud. Il est chaud, et effectivement, Apple serait prêt... pour le présenter, alors pour nous donner d'abord des petites bribes, voilà, nous faire un petit peu saliver, et sortie prévue d'ici la fin de l'année, normalement. Ce serait même la seule grosse sortie d'Apple. Alors, il y aura des nouveaux iPhones, etc. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, en termes de grosses innovations, ce serait vraiment le chef-d'œuvre, on va dire, enfin, le plat de résistance, on va dire, d'Apple. Alors, on n'a pas énormément d'informations, si ce n'est que ce serait un casque de réalité mixte. Les prix qu'on fuitait, ce serait autour de 3 000 $.
Ça ne m'étonne pas.
Ouais, c'est ça. Quand tu disais démocratiser, je ne sais pas si c'est le mot.
C'est pas le mot. Mais si c'est Apple.
Tu le payes en 500 fois sans frais, oui.
C'est ça. Ouais, mais en revanche, effectivement, ce qui est sûr, c'est que comme ce sera Apple, comme à chaque fois, il y aura une résonance particulière et évidemment, on en parlera beaucoup plus. Exactement comme pour la voiture tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est pareil d'ailleurs, c'est pareil. C'est une arlésienne, on en parle depuis des années. Mais enfin là, c'est vrai qu'on est beaucoup plus proche pour le casque. Et à partir du moment où Apple aura sorti son modèle, tout le monde va devoir se positionner. Et peut-être qu'effectivement, ça donnera lieu à, en tout cas, une plus grande généralisation de ces technologies.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un calendrier quasi. Hein.
c'est-à-dire qu'il devrait être annoncé très vite.
Ouais.
Et sortir d'ici la fin de l'année.
Ouais, automne 2023.
Et ça paraît cohérent parce que Apple va présenter ce produit, peut-être sans doute avant la WWDC.
Pour donner aux développeurs l'occasion
dire
de...
Dire aux développeurs, regardez les gars, ça y est, il est lancé, amusez-vous avec, commencez à sortir des applis parce que, évidemment, sans applicatif, ce casque ne servira à rien. On murmure même que certains éditeurs auraient déjà le masque pour que, en fait, le jour J, il y ait des trucs à montrer. D'accord. Donc c'est intéressant. Ouais. Ça me fait penser à la sortie de l'iPhone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà,
au
Steve Jobs avait présenté
ouais.
ce truc-là. Et puis pendant ce temps-là, bah, voilà, ils avaient amélioré le produit. Et puis après, il y a eu quelques mois après les applications, etc.
L'Apple Watch, c'était pareil. Il y avait eu un décalage de 6 mois. Elle avait été présentée au mois de septembre avec les iPhones.
L'iPad aussi, hein, je me souviens, les premiers iPads. Hein.
Ouais. Et le HomePod. Bon, le HomePod a eu un moins bon vécu, mais c'était pareil. Le HomePod avait été montré lors de la conférence des développeurs au mois de juin, en leur disant. Créer un écosystème pour aller avec d'applications. Là, clairement, au printemps, il y avait souvent un événement, une présentation de choses secondaires, iPhone SE, choses comme ça. Donc, on est sur la feuille de route qui est murmurée quand même depuis des années, qui était une sortie. Alors, fin 2022, mais avec le Covid et tout. Là, on sait que ça devient extrêmement concret. Et même eux, depuis des années, en fait, quand on les connaît bien... Ils tracent la route. On a eu beaucoup d'applications en réalité augmentée qui sont arrivées avec les iPhones, avec les iPads, pour les écoles. On ne sait toujours pas qui...
Ils ne bouleversent pas grand monde hein, pour l'instant.
Dans les écoles, c'est beaucoup plus utilisé.
Ah ouais.
Sur les iPads, c'est beaucoup plus utilisé. En fait, c'est là où on se dit que justement, ce sera à mon avis pareil, peut-être un stand-alone, enfin un casque autonome, pour houiller un iPhone, mais de très loin, parce qu'ils ont un environnement en réalité augmentée qui est très très fort. Tim Cook a toujours dit « Je préfère la réalité augmentée à la réalité virtuelle, je lui trouve plus d'intérêt. » Sans dire « Je prépare un casque ou quoi que ce soit. » Parce que, officiellement, chez Apple, le casque n'existe pas. Hein. Je vous rappelle
comme
que...
Comme toujours avec Apple et les produits.
Il laisse les autres en parler, mais personne n'en parle. Donc, printemps, en effet, pour commencer à donner des billes, sortie à l'automne, c'est extrêmement cohérent pour eux. Parce qu'à l'automne, cadeau de Noël. Alors, beau cadeau de Noël, on est d'accord. Mais surtout, commencer à avoir des applications. Mmh. Est-ce qu'il sera B2C ? Enfin, est-ce qu'il sera pour le consommateur final ? Moi, c'est là où je suis un peu plus sceptique. Hein,
ouais.
Quand même.
Bah, à 3 000 euros, c'est vite dit.
Il va falloir commencer à gratter des informations auprès des éditeurs et des développeurs d'applications. Mais les mecs, ils ont dû signer, tu sais, en lettres de sang, leur NDA.
Sur 25 générations. Alors, sur 25 générations.
C'est clair. Les mecs, ils ont dit, si je parle, je donnerai mes deux reins à Apple.
Oui, ça me fera plaisir.
Et ça me fera plaisir.
Tiens, puisqu'il nous reste une minute, on termine avec Apple et cette volonté d'Apple de s'émanciper de ses fournisseurs de composants. Hein.
Ouais.
On le voit, hein, petit à petit, ils veulent fabriquer leurs propres puces. Alors, ils le font déjà avec leur silicone et ils vont le faire avec la puce 5G. Petit à petit, ils vont mettre de côté Qualcomm. Et visiblement, pareil aussi, Anthony, pour Samsung, visiblement, ils veulent abandonner Samsung et fabriquer eux-mêmes leurs écrans.
Ouais, Samsung et LG, hein, qui sont les deux fabricants d'écrans, et visiblement, ouais, ils auraient dans les tuyaux le fait de concevoir eux-mêmes, alors ce ne serait pas fabriqué à proprement parler, hein, c'est comme pour les processeurs, ils les conçoivent, mais de concevoir en interne leurs propres écrans, qui seraient des écrans micro-LED, alors notamment pour les watch dans un premier
micro-LED,
temps, après,
des Mac après.
Ouais, peut-être les Mac aussi, et effectivement, on est dans une stratégie qui est extrêmement intéressante. Hein. En ce moment, on parle beaucoup de souveraineté industrielle, des problèmes d'approvisionnement, etc. Ouais. Donc il y a cette volonté de rapatrier en interne au maximum le fait de concevoir soi-même ses propres composants, etc. Et puis, il y a le fait, effectivement, de sortir de la dépendance. Est-ce qu'on peut parler de dépendance ? Mais en tout cas, de leur attachement très clair à Samsung. Il faut rappeler que Apple, c'est le plus gros client mondial de Samsung. Je crois que ça représente 6% du chiffre d'affaires de Samsung. C'est absolument
Samsung massif. Display. Hein.
Samsung Display, voilà. Absolument.
C'est pas le Samsung...
Ils ont les mémoires, je crois, aussi. À Samsung.
Ah, c'est possible, mais c'est pas les Samsung smartphones, c'est ça que je veux dire.
C'est Samsung Electronics, en fait.
Ouais. Samsung Electronics, c'est pour les smartphones. Leur concurrent, là, chez qui ils se fournissent, c'est Samsung Display, qui est une autre entité qui fournit les écrans des télés, des choses comme ça.
Ouais,
mais là,
Samsung,
c'est un
conglomérat
monstrueux. Bon, ben voilà pour l'actu de ce de quoi je me mêle. Merci à tous les deux. Toujours passionnant de vous écouter, de réagir avec vous sur l'actu. Merci Mélinda.
C'est un plaisir.
Mélinda d'Avansoulas qui va s'amuser tout le week-end avec le Quest Pro.
Exactement.
Et merci Anthony.
Merci François, tu vas nous le prêter quand même. Hein.
On verra si vous êtes sage. Ah. Ou virtuellement, je vous le prêterai.
On a intérêt à être sage, parce que moi, vraiment, j'ai envie de jouer.
Aussi.
Voilà, De quoi je me mêle est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. N'hésitez pas, évidemment, à nous suivre sur la chaîne Tech & Co, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et puis, j'aurai le plaisir aussi, si vous êtes un fan de tech, de vous retrouver dès lundi pour Tech & Co, puisque tous les soirs, je suis là, 20h, 22h, à la radio, à la télé, en direct, pour 2h de tech du lundi au jeudi sur BFM Business. À très vite et bon week-end.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.